Alors, Paul Manet, j'ai une première question assez simple pour vous. Vous le qualifieriez comment, vous, le tournant ou les tournants qui sont devant nous, en particulier en lien avec la crise climatique et environnementale? De quelle ampleur pour vous ce tournant-là qu'on a face à nous?
Un tournant majeur, un tournant historique, le mot est un peu galvaudé, mais un tournant comme il ne s'en produit pas un par siècle, je pense, comme il s'en produit un tous les deux, trois siècles. Je crois que c'est un tournant d'une profondeur équivalente à ce qu'on a connu avec la révolution industrielle et urbaine, qui a très très profondément marqué l'histoire du monde, mais en particulier de la région du monde dans laquelle nous vivons. On est ici à Charleroi aujourd'hui, ben on est en plein cœur de ce que j'appelle le croissant fossile, ce cœur de ce nouvel âge dans l'histoire de l'humanité qui a été le basculement avec l'exploitation du charbon et la machine à vapeur et l'industrialisation et puis la concentration, l'exode rural, la concentration de la population dans les villes. Ça a été un basculement absolu et je crois que ce qu'on est en train de vivre est d'une ampleur équivalente. Donc quelque chose comme ce que l'on vit tous les deux siècles peut-être.
Mmh. Ce qu'il y a, c'est que on est face aujourd'hui à un défi qu'on connaît déjà depuis pas mal d'années, hein, l'enjeu des émissions de gaz à effet de serre liées à notre mode de vie, à notre économie, à notre consommation. On sait, et vous le dites d'ailleurs dans un ouvrage dont on va parler dans quelques instants, que on connaît le problème, qu'on sait aussi plus ou moins comment le résoudre. Et pourtant, on n'a pas l'impression que les choses bougent pour le moment. Comment est-ce que vous expliquez que malgré qu'on ait ce tournant aussi majeur que vous venez de le décrire, on soit dans une action qui reste quand même relativement timide par rapport à l'ampleur de l'enjeu?
Alors, il n'y a jamais une explication unique, mais je pense qu'il y a trois causes majeures. La première, c'est que d'abord, il y a des intérêts économiques et financiers énormes, hein, tout simplement. Il y a un blocage de l'industrie, de l'extraction des énergies fossiles, de l'industrie agroalimentaire, de l'industrie chimique et des plastiques, etc., qui sont au cœur du modèle de production et de consommation dans lequel on vit aujourd'hui et qui est celui qui est responsable des dégradations de l'environnement et des dérèglements climatiques, mais qui continuent à faire énormément d'argent avec ce modèle-là. Et donc, évidemment, ils vont tout faire pour retarder la transition. Ceux qui détiennent des réserves de pétrole ou de gaz vont tout faire pour pouvoir continuer à exploiter un maximum de pétrole, un maximum de gaz, le plus longtemps possible, et le vendre le plus cher possible. Ça, c'était vraiment la première cause, la plus simple et la plus élémentaire. La deuxième, je pense qu'elle est plus de l'ordre culturel, de l'ordre des perceptions du monde. C'est que ça fait tellement longtemps qu'on nous dit que la transition climatique, c'est des restrictions, que c'est ne plus manger de viande, ne plus voyager en avion, ne plus acheter des vêtements neufs, ne plus utiliser sa voiture, etc., qu'on a construit autour de l'idée de la question écologique, au sens très général du terme, un peu l'idée que c'était ce qu'on appelle l'écologie punitive ou que c'était un nouvel ascétisme. Et ça, ça fait pas envie, tout simplement. Je crois qu'on a tous envie, c'est pour ça que j'ai appelé le livre « La vie large », on a tous envie de mener la vie la plus large possible, ce qui est parfaitement possible et compatible avec une nature qui a des limites, une nature qui est finie, du point de vue matériel, mais pas avec le mode de consommation qui est le nôtre aujourd'hui. Et donc là, il y a une vraie transformation culturelle qui est absolument indispensable. Et puis la troisième cause, et peut-être la plus profonde de toutes, parce que les deux premières, c'est des choses qui peuvent encore changer relativement rapidement, en tout cas sur l'échelle de quelques années, mais c'est que c'est tout l'ordre social qui est organisé autour de la production, de l'accumulation, de l'extraction et d'une consommation à outrance, et que donc, on ne peut pas changer, je pense, de mode de consommation et de production sans changer aussi l'ordre social et les inégalités si profondément enracinées dans notre monde. Le rapport au travail, le rapport à l'accumulation de la richesse, l'hyperconcentration de la richesse à laquelle on a assisté les 30 dernières années, tout ça est intimement lié au dérèglement climatique et à leur aggravation ces dernières années. Et donc, on ne peut pas espérer en sortir si on ne s'attaque pas à ces inégalités.
Alors, c'est un peu l'enjeu de cet ouvrage que vous avez sorti il y a quelques mois maintenant, Paul Magnette, qui s'appelle, vous l'avez dit, « La vie large », avec comme sous-titre « Manifeste éco-socialiste », puisque, quelque part, tous les partis doivent un peu aujourd'hui se réinventer par rapport à cet enjeu. Alors, je ne vais pas essayer de résumer ici votre ouvrage, ce serait sans doute assez long, mais quelque part, vous faites l'analyse hein, de ce que vous venez de pointer ici, de la situation très problématique dans laquelle nous sommes, de l'urgence à agir, du problème du fait que ça n'avance pas aujourd'hui. Et vous faites aussi un petit point sur ce qui a dysfonctionné. Pourquoi on se retrouve aujourd'hui dans cette situation-là. Et c'est ça que je trouve intéressant à pointer peut-être tout d'abord. Hein. Vous dites, bon, ce sont les dérives du capitalisme qui nous a mis dans cette situation et de son extractivisme. Mais vous nous dites aussi dans cet ouvrage que le communisme n'a pas fait beaucoup mieux et qu'en matière de destruction de la nature, il a même fait presque pire si on regarde les échelles de temps. Et puis vous dites aussi, et c'est intéressant par rapport à l'enjeu de l'avenir du socialisme, que le socialisme lui-même, il a très longtemps suivi une ligne productiviste qui n'avait pas spécialement pour but de préserver la nature, mais quelque part plutôt de mieux répartir les richesses qui étaient issues de son exploitation. Donc quelque part, vous nous dites aussi que dans l'histoire du socialisme, on a contribué, notamment aussi dans le développement de l'État-providence, à une économie qui allait épuiser la nature. Du coup, c'est quoi pour vous, Paul Magnets, la nouvelle voie, cette voie de l'éco-socialisme pour l'avenir? Comment est-ce que vous le définissez par rapport à ces balises qu'on vient de citer?
D'abord, il faut un peu revenir en arrière, parce qu'il faut comprendre les racines du problème. Et effectivement, entre la fin du 19e siècle et tout au long du 20e siècle, tout le monde a été productiviste, pratiquement. C'est-à-dire que tout le monde a été convaincu qu'il fallait produire plus, parce que c'est seulement si on arrivait à un certain niveau d'abondance qu'on se libérerait quand même de ce qui a été le fléau dans l'histoire de l'humanité, hein, il ne faut pas l'oublier, parce que aujourd'hui, si on regarde juste 50 ans, 100 ans en arrière, on se dit on a fait beaucoup de mal à la planète, mais on oublie qu'avant ça, l'histoire de l'humanité a été une histoire terrible, ça a été une histoire de faim, ça a été une histoire de famine, ça a été une histoire de mortalité infantile catastrophique, c'était une histoire pendant laquelle l'espérance de vie tournait pendant des siècles et des siècles autour de 40 ans. Et donc tout d'un coup, début 19e, et tout au long du 19e et 20e siècle, grâce à des progrès scientifiques et technologiques fulgurants, on peut à la fois améliorer tout ça, donc améliorer comme jamais ça ne s'était produit dans l'histoire de l'humanité les conditions de vie, et produire beaucoup plus. Et donc c'est les humains qui, depuis qu'ils existent, s'étaient battus contre la nature pour essayer d'assurer leurs nécessités, et qui très souvent n'y étaient pas arrivés, et avaient dû être confrontés à des catastrophes naturelles, à des famines, à des épidémies de peste ou d'autres maladies qui étaient aggravées par l'état famélique dans lequel se trouvaient les populations, bien évidemment, ça les fascine. Et donc, ça fascine tout le monde, autant les libéraux que les conservateurs, que les socialistes, que les communistes, enfin, à peu près tout le monde à des degrés d'intensité un peu variables. Et c'est vrai que les communistes ont fait, historiquement, même encore pire que les capitalistes, parce que ils avaient... D'abord, le communisme s'est construit en Russie dans des pays qui étaient moins avancés sur le plan industriel que les pays les nôtres, que les pays occidentaux. Donc, ils ont voulu rattraper, comme on disait, leur retard de développement, pour utiliser le vocabulaire de l'époque. Donc, ils ont intensifié tous les investissements, les travaux de transformation de la nature. Ils l'ont fait avec une intensité encore plus forte que dans les autres régions du monde et causé des catastrophes environnementales encore plus graves que dans d'autres régions du monde. Le bilan du communisme est un peu moins grave que celui du capitalisme pour deux raisons. Il a duré moins longtemps et il a eu un espace géographique beaucoup moins large. Il y a moins de pays qui ont épousé le modèle communiste que le modèle capitaliste. Mais les deux, finalement, étaient terribles pour la nature et ont causé une accumulation de carbone et donc les dérèglements climatiques qu'on connaît, une dégradation environnementale absolue. Maintenant, les autres courants de pensée ont aussi épousé, alors moins fort, mais ont épousé aussi cette idée qu'il fallait produire plus pour se libérer de la dépendance par rapport à la nature et aboutir enfin à l'abondance et une certaine forme de bien-être matériel sur lequel l'humanité fantasmait depuis des siècles et des millénaires. Et donc ce qui est nécessaire maintenant, c'est d'avoir un rapport critique par rapport à ça et de se dire, aujourd'hui nous sommes arrivés dans nos pays riches, en tout cas c'est très différent dans d'autres régions du monde, mais dans nos pays riches, on est arrivé à un tel niveau d'accumulation de savoir scientifique, à un tel niveau d'accumulation technologique, à un tel niveau de construction d'infrastructures, à un tel niveau de richesses accumulées simplement génération après génération, qu'il n'est plus nécessaire de produire plus l'année prochaine que cette année-ci. Et donc, on doit pouvoir développer un rapport critique à la question de la croissance. La croissance, quand les premiers économistes qui se sont penchés sur la croissance aussi à la fin du 19e siècle se disaient « il faut croître, il faut que tous les ans on produise plus que l'année d'avant pendant un certain temps, et puis quand on aura atteint un niveau qui permet d'assurer l'abondance à tous, on pourra arrêter de croître. On pourra rentrer dans ce que John Stuart Mill, un économiste libéral anglais, ou John Maynard Keynes, un autre économiste libéral anglais, appelait l'état stationnaire. Chaque année, on allait produire la même chose que l'année d'avant. C'est pas la même chose que la décroissance. Les partisans de la décroissance disent qu'il faut produire moins que l'année d'avant. Alors tous ces débats sont un peu scolastiques, parce qu'en réalité la question c'est produire moins de quoi. Il faut consommer moins d'énergie là-dessus, moins d'énergie fossile. En tout cas là-dessus il y a un consensus général. Il faut consommer moins de matières premières pour épuiser moins la planète. Ça ne veut pas dire pour autant que on doive produire moins de prospérité au sens le plus noble du terme l'année prochaine que cette année-ci. Il y a plein de secteurs dans lesquels on peut continuer à produire plus. On peut produire plus dans l'éducation, dans la culture, dans la régénération de la nature, dans le soin à la personne, dans les soins aux enfants, dans l'accompagnement des personnes malades ou des personnes porteuses de handicap, etc. Donc il y a des tas d'activités dans lesquelles on peut continuer et même dans lesquelles on doit continuer à croître pour améliorer le bien-être, mais il faut réduire en revanche une certaine forme de production matérielle qui consomme et qui consomme abusivement les ressources naturelles et des ressources non renouvelables comme les énergies fossiles.
Ceci dit, si on entend un Jean-Marc Jancovici qu'on recevait d'ailleurs il y a quelques semaines dans ce podcast, il dit la décroissance au sens physique du terme, elle va s'imposer à nous à partir du moment où on a moins d'énergie disponible. On va pouvoir remplacer une partie de notre énergie actuelle, mais pas tout. On va avoir moins de production de biens, on va avoir moins de déplacements aussi, tout ça étant lié à l'énergie. Et donc, quelque part, physiquement parlant, il va y avoir une forme de décroissance. Or, c'est vrai, si on regarde, par exemple, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Paul Magnette, on voit que le socialisme, en particulier, a grandi et s'est nourri du fait qu'on allait pouvoir partager les fruits de la croissance. Et le but, c'était de dire, oui, il n'y a pas de raison que ce soit juste les détenteurs du capital, les plus riches qui en profitent, il faut partager, mais toujours dans cette perspective de croissance qui a nourri l'État social. Comment est-ce qu'on réinvente pour demain le socialisme, puisque c'est ce qui vous concerne en tant que président du PS, dans un monde sans croissance?
Alors c'est vrai que il a fallu la croissance pour pouvoir construire les services publics, pour pouvoir construire la sécurité sociale. Chaque année, on produisait un peu plus que l'année d'avant, et en gros, on faisait trois tiers. Un tiers pour le travailleur, qui pouvait donc améliorer ses conditions de vie matérielles dans sa famille, dans sa vie personnelle. Un tiers pour le patron, parce que ça, c'est le compromis, si on veut, avec le régime capitaliste. Et puis, un tiers pour les biens collectifs, qui étaient les services publics et la sécurité sociale. Et c'est le fait qu'on ait eu, en particulier entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et la fin des années 70, une croissance très forte, qui a permis de construire ce patrimoine collectif que sont les services publics et la sécurité sociale. Donc moi, je ne remets pas en cause cette phase historique. Je dis simplement qu'on est arrivé aujourd'hui à un stade où ça n'est plus nécessaire. Si on prend toute la richesse que nous produisons aujourd'hui en Belgique, nous produisons en Belgique 600 milliards de richesse, à travers le PIB de la Belgique, c'est à peu près ça. Eh bien, avec cette richesse produite-là, on peut parfaitement éradiquer totalement la pauvreté. On a largement assez de richesse pour investir massivement encore dans un refinancement des soins de santé, des services à la personne, des services publics, isoler les bâtiments, investir dans les infrastructures, etc. La seule chose, c'est qu'il faut pour ça beaucoup mieux distribuer la richesse accumulée. Aujourd'hui, ces 600 milliards sont très mal distribués. Le dernier rapport d'Oxfam le montre encore. Le 1% le plus riche dans le monde, mais ça vaut aussi chez nous, accapare une part du patrimoine qui est infiniment trop importante. Et donc, du coup, il n'en reste pas assez pour les autres. Et le cœur du problème, c'est celui-là. Et tant que 1% de la population continuera d'accumuler un quart du patrimoine et que les autres devront se répartir tout le reste, la moitié de la population n'a plus rien. Et ça, à un moment donné, ça n'est plus possible. On ne peut pas dire on ne touche pas à ceux-là et donc il faut que les autres continuent à croître. Non, au total, on ne peut plus croître, en termes de consommation matérielle en tout cas, dans nos pays riches, parce qu'en plus, il faut laisser de la marge pour les autres. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui n'ont pas atteint, qui ont besoin de croissance et qui ont besoin de consommer encore davantage d'énergie et davantage de matières premières pour pouvoir construire la prospérité qui leur permettra de bâtir des services publics, la sécurité sociale, etc. Donc si on veut que les pays les plus pauvres puissent arriver à un certain niveau de bien-être, il faut que les pays les plus riches réduisent effectivement leur production et leur consommation. Et si on veut que dans ces pays riches, la vie reste large pour la majorité de la population, eh bien, il faut beaucoup mieux répartir cette richesse et beaucoup mieux répartir, en ce compris, le capital historiquement accumulé. Donc, quand on parle de taxes sur la fortune, c'est pas juste par vengeance, c'est pas juste par provocation politique, c'est simplement parce qu'il faut pouvoir dire qu'il y a eu une telle suraccumulation du capital dans un très petit nombre de mains que ce qui reste disponible pour les autres n'est pas suffisant pour que tout le monde vive bien. En revanche, si on redistribue ce capital de manière beaucoup plus équitable, si on réinvestit dans des biens communs, alors tout le monde peut vivre confortablement et les plus riches seront un peu moins riches, mais ils seront peut-être plus heureux parce que l'argent ne fait pas toujours le bonheur.